Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages, je reviens aujourd'hui, car après tout l'année 2004 n'est pas terminée, sur le 60e anniversaire du débarquement, de la libération de Paris et de la France, avec un ouvrage que je recommande tout particulièrement aux jeunes, aux instituteurs, aux professeurs, mais aussi à tous ceux qui ont envie de parfaire leurs connaissances. Cet ouvrage s'intitule « La liberté venue des mers, les 60 plus belles histoires de la libération de la France ». Il est publié aux éditions Timet. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'un des auteurs, Catherine Trouillet, qui travaille, je crois, à la Fondation Charles de Gaulle. Madame Trouillet, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord vous demander quel est l'objectif de la Fondation Charles de Gaulle.
Alors, la Fondation Charles de Gaulle a été créée pour transmettre la mémoire et évidemment faire connaître l'œuvre et l'action du général de Gaulle. Donc, pour ce faire, nous disposons évidemment d'une bibliothèque, qui réunit à peu près 4500 ouvrages sur le général de Gaulle et la période contemporaine. Nous organisons des colloques et des conférences qui sont plutôt à destination des chercheurs et des étudiants. Nous mettons à leur disposition les archives que nous possédons, qui sont celles du RPF, le mouvement qu'avait créé le général de Gaulle en 1947. Et nous organisons pour le grand public des expositions. Et là particulièrement, nous travaillons sur une exposition qui aura lieu dans le cadre de l'année de la France en Chine, à Pékin, qui ouvrira le 10 octobre, et qui suivra à Shanghai à partir du 15 novembre.
Alors, c'est le moment de vous souhaiter bon voyage en Chine. Alors.
Merci.
Je voudrais dire que cet ouvrage que vous avez écrit avec Monsieur Sharon Elbaz, donc « La liberté venue des mers », cet ouvrage vient d'être distingué par l'Académie des sciences morales et politiques qui lui attribue l'un de ses prix. Et en tout cas, pour le prix, pour l'année 2004, vous recevez le prix du Lac. C'est un prix annuel destiné à récompenser des gendarmes, des militaires, des marins ou des civils ayant accompli des actes de courage et de dévouement. Et je pense que cet ouvrage est distingué parce que dans ce livre qui raconte les 60 plus belles histoires de la libération de la France, justement, vous valorisez tous les actes de courage, à la fois des militaires, des soldats, des civils qui ont participé à la libération de la France. 60 histoires qui sont découpées en chapitres, selon des grands moments, des histoires qui sont vécues par des témoins, qui sont sûrement aussi resituées dans leur contexte, brièvement, mais quand même tout à fait clairement. Et je me réjouis déjà de vous entendre en raconter quelques-unes, car on ne pourra pas toutes les raconter. Donc, il y a une page par histoire et beaucoup de documents en noir et blanc, bien sûr, qui enrichissent ce livre et qui fait que c'est un excellent livre à recommander. Alors, parlons d'abord, si vous le voulez bien, Madame Trouillet, parlons du jour J, du fameux jour J. Il a évidemment été préparé, comme on le sait, en Angleterre, et vous racontez une histoire de faux tank, et au fond, qui était destiné des l'heure qui était destinée à tromper l'ennemi.
Oui, absolument. C'est une partie de l'opération qu'on a appelée Fortitude, donc force d'âme, qui est préparée par les alliés pour justement effectivement leurrer les armées allemandes. Il s'agissait donc de leur faire croire que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Donc pour ce faire, on a habilement transmis de faux renseignements aux Allemands. On leur a permis de prendre des photographies aériennes d'une armée massée dans le Kent, absolument phénoménale. Et ils ont donc cru qu'effectivement un débarquement se préparait sur les côtes du Pas-de-Calais. Alors les Anglais, certains Anglais du Kent ont pu s'apercevoir de la supercherie dans la mesure où effectivement un jour un fermier anglais a vu arriver médusé dans son champ toute une série de tanks. Il s'est dit « mon Dieu, c'est épouvantable, ils vont tout massacrer, c'est effrayant ». Donc, mais quelle ne fut pas sa surprise de voir que ces tanks ne laissaient absolument aucune trace sur l'herbe et sur les cultures qu'il avait préparées. Il a été encore plus surpris quand il a vu charger un de ses taureaux, un énorme tank. Et il s'est évidemment rendu, le taureau ne s'est fait aucun mal, dans la mesure où toute cette armée était composée de très vieilles péniches de débarquement et de matériel gonflable et de tanks en roseau. Donc effectivement, le brave fermier n'a pas eu à pâtir de cette invasion de troupes dans son champ.
Alors, vous évoquez donc des histoires. Là, nous sommes dans l'histoire d'un fermier. C'est un anonyme de histoire de la Libération. Mais il y a des gens un petit peu plus connus, bien sûr, puisque vous évoquez aussi dans votre livre toutes les grandes figures de cette partie de la guerre. Et puis, il y a un personnage qui m'a... Enfin, ça m'a intéressé de lire son histoire. C'est un photographe de guerre. C'est Robert Capa. Pouvez-vous nous raconter son histoire en quelques mots?
Robert Capa se trouve aux États-Unis au début de la guerre, dans la mesure où il est d'origine hongroise et que donc il a fui l'invasion nazie dans son pays. Donc il se retrouve aux États-Unis et évidemment après Pearl Harbor, les Américains voient d'un assez mauvais œil ce photographe d'origine hongroise, le soupçonnant de d'être un espion, etc. Et donc le convoque pour lui demander de remettre tous ses appareils photos. Et Robert Capa, dans le même temps, la veille de sa convocation auprès des autorités américaines, arrive à embarquer sur un transport de troupes à destination de l'Europe pour honorer une commande du magazine Life qui lui demande d'accompagner les armées de débarquement en Europe. Et donc, effectivement, il va se trouver aux premières loges le 6 juin 1944, débarquant avec les premières vagues américaines. Évidemment, il va mitrailler, si je puis dire, tout le champ de bataille.
Avec son appareil photo.
Avec son appareil photo en bandoulière. Il se jette à l'eau comme les autres, etc. Et il fait à peu près 600 photos, ce qui représente...
Formidable. Donc il devait être content pour un reporter, c'est important.
Enchanté, évidemment. D'autant plus qu'il prenait des risques immenses, évidemment. Donc, il est enchanté. Il parvient en plus à rembarquer sur un bateau américain. Et la première chose, évidemment, qu'il fait, c'est d'envoyer ses photographies à un laboratoire pour qu'elles soient développées. Et là, le malheur veut que, dans l'excitation générale, le laborantin fait une fausse manipulation. Et donc, toutes les photos sont voilées et perdues. Il n'en reste que 8 qui sont évidemment très floues. C'est ces 8 photos que l'on voit partout, parce qu'effectivement, ce sont pratiquement les seuls qui vraiment ont fixé ce moment du débarquement. Et effectivement, Robert Capa dira par la suite que de tous les hommes qui ont pris part à cette guerre, ce laborantin est le seul qu'il ait vraiment jamais eu envie de tuer.
Évidemment. Voilà. On voit d'ailleurs dans votre livre qui, comme je le disais, comporte énormément de documents, La liberté venue des mers. On voit une photographie de Robert Capa prise donc le 6 juin 1944. Effectivement, elle est un peu floue. Néanmoins, on voit tout de même de quoi il s'agit, puisqu'on y voit un soldat dans l'eau jusqu'au cou. Et puis, on voit aussi une photographie de Capa posant avec Ernest Hemingway. Enfin, je trouve que les documents de votre ouvrage sont au moins aussi intéressants que le texte, parce que l'iconographie, évidemment, est très riche. Donc, nous sommes le 6 juin, et le 6 juin, à l'aube, il y a aussi, et on connaît cette histoire, mais j'aimerais vous l'entendre raconter, ce fameux débarquement en Normandie, bien sûr, et notamment dans le village de Sainte-Mère-Église, où, on le sait, l'un des parachutistes largués sur le village s'appelle John Steele.
Oui, alors c'est une histoire effectivement très célèbre. Quand vous allez encore vous promener à Sainte-Mère-Église, vous voyez encore accroché au clocher un parachute et un mannequin de parachutiste qui symbolise cette histoire. Bon, il faut savoir que le 6 juin, la météo est extrêmement mauvaise. Il y a une tempête terrible, il pleut beaucoup, on ne voit absolument rien. Et donc, ce qui explique que la 82e division aéroportée qui doit être largué sur Sainte-Mère-l'Église, parce que c'est un petit village, mais c'est un nœud routier extrêmement important. Donc c'est très important de prendre ce village. Donc cette division est larguée à l'aveuglette, c'est-à-dire que 75% des parachutages vont être largués hors zone. Donc, ils vont, et certains, enfin la plupart, soit n'atteindront pas le sol parce qu'ils seront tués avant, soit vont aller se noyer dans les marais autour. Donc, c'est un largage extrêmement...
75% des parachutistes.
Des parachutistes sont largués totalement hors zone. Donc, c'est un parachutage qui est raté, si on peut dire, hein, mais qui est raté à cause des conditions météorologiques.
Oui, mais on pouvait pas remettre tout le débarquement à cause de ça non plus.
Donc, John Steele fait partie de cette division, et donc lui voit arriver le clocher de l'église de Sainte-Mère-l'Église, avec évidemment au sol tous les Allemands qui gardent ce village. Donc il voit évidemment sa dernière heure arriver, et donc effectivement son parachute va s'accrocher au clocher de l'église, et il se dit que le seul moyen d'en réchapper, c'est de simuler la mort. Et c'est ce qu'il va faire pendant 2 heures, et ça va marcher, puisque effectivement les Allemands ne vont pas du tout s'intéresser à ce parachute accroché, et vont penser que le parachutiste est mort. Et donc effectivement, il va en réchapper grâce à cette simulation.
Alors, au moment de ce débarquement, il y a évidemment, et nous avons tous en image dans notre mémoire, les plages du débarquement. 2 plages dont j'aimerais vous entendre parler. La première, c'est celle que les Américains ont baptisée Omaha Beach. Et Omaha Beach, c'était la plage de Saint-Laurent, en français on disait Saint-Laurent, une des plages, et là c'est une bataille terrible.
C'est une bataille terrible. Les Américains l'appelleront Omaha la sanglante. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, toujours, les conditions météo sont terribles, et c'est une plage qui est mieux défendue que les autres. Donc les Américains vont avoir beaucoup de mal déjà à accoster et à pouvoir larguer leurs soldats, et le matériel évidemment pourra suivre, mais extrêmement difficilement. Donc les officiers, les rares officiers et soldats qui arrivent sur la plage vont se dire le seul moyen de s'en sortir, c'est de fuir le plus vite possible, évidemment de fuir en avant. Donc ils vont se dépêcher de gagner, de franchir les dunes. Ils vont être aidés par 2 destroyers qui vont finir par réduire les batteries allemandes, et ils vont enfin pouvoir passer les dunes et donc être un peu plus en sécurité que sur la plage même.
Avec Catherine Trouillet, nous évoquons son ouvrage « La liberté venue des mers » aux éditions Timé Édition. Je vous propose de continuer pour une prochaine fois ces belles histoires qu'elle nous raconte, ces histoires de la libération de la France. Thank you.